Et voilà, bonsoir, une nouvelle semaine d'entretien s'ouvre pour parler temps qui court. Chaque soir, nous recevons des artistes dans l'actualité culturelle pour une heure de conversation. Et ce soir, c'est Pacôme Thielman.
Un tango, une danse, un baiser.
Du pota, pépété, pépé.
Parler temps qui court.
Ça y est, puis va-t-il bien.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Un jour ou l'autre, toutes les filles déprimées et tous les garçons tristes se mettent à crier comme Cavana dans les yeux plus gros que le ventre. Pourquoi la seule chose exaltante sur cette terre, la seule qui par moments te soulève au-dessus de tes pompes et te fait trouver que la vie vaut la peine, pourquoi déclenche-t-elle cette avalanche de malédictions ? C'est vrai, pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas en lisant votre livre, Pacôme Thielman, que l'on saura vraiment pourquoi. Ou plutôt, oui, on le saura, mais cela n'empêchera pas la malédiction. Cela nous invitera au contraire à traverser pour la énième fois le labyrinthe de l'amour malheureux pour trouver la joie, car chaque chagrin, je vous cite, n'est que la nuit qui précède la lumière de l'aube. Bonsoir, Pacôme Thielman.
Bonsoir Marie.
Bienvenue. Votre livre « Sycomore, Sycamore » paraît aux éditions des Presses universitaires de France. Et s'il y est question d'amour malheureux, vous n'y cachez pas du tout votre amour heureux pour Shakespeare, Lynch, Rivette et d'autres. Et puis l'actualité éditoriale est comme ça, parfois tout sort en même temps. Donc il y a ce livre-là, mais il y a aussi trois essais sur Twin Peaks au PUF, Tous les chevaliers sauvages, ça ressort chez Wambot, et Économie Esquimaux, ça ressort chez MF. Tout ça un peu, voire beaucoup augmenté.
Le sycomore pousse admirablement sur le sol égyptien. Il a un tronc trapu et tourmenté, avec un feuillage compact donnant une ombre impénétrable au soleil. Son bois était recherché pour la fabrication des meubles, des cercueils, des statues, surtout des statues de déesses. Ses fruits jouaient un rôle en thérapeutique. Mais les figues du figuier qu'on appelait le sycomore à figues étaient sans doute bien plus appréciées des consommateurs. Au moment de la cueillette, des singes grimpent dans le haut des arbres. Ils jettent les figues au jardinier, mais ils en dévorent tout autant sans que le jardinier s'en plaigne, car il faut bien que tout le monde vive.
Et voilà la petite fable. C'est un inconnu qui parle, mais c'est délicieux. Et puis ça va vraiment nous permettre d'entrer dans votre livre d'une manière particulière, Pacôme Thielman. On est en 1950 et cet homme, donc intervenant indéterminé, comme on dit dans les archives, nous parle de la passion des Égyptiens pour cet arbre du sycomore. En réalité, avant que le sycomore n'arrive dans ce texte-là et il va être une sorte de motif de la tapisserie, il y a un autre arbre qui est l'arbre de l'Éden, ou peut-être le sycomore précède l'arbre de l'Éden. Je ne sais pas comment ça s'est fait dans votre jardin.
En fait, il y a des doutes sur l'arbre de la Genèse. Donc, j'ai laissé traîner l'information forcément discutable que ça pouvait être un figuier également. Hein. Donc, qui sait, peut-être que Adam et Ève aussi étaient auprès d'un sycomore. Il y a beaucoup de sycomores, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de sycomores. L'arbre lui-même, comment je l'ai rencontré? À la croisée de plusieurs éléments, il y avait évidemment le rôle important du sycomore dans le livre des morts égyptiens et le fait que c'est l'arbre à travers lequel le mort passe pour son voyage dans l'au-delà. Donc c'est un arbre qui fait frontière entre ce monde et l'autre. Chez les Perses, par exemple, c'est une montagne, c'est la montagne de Coiffe. La montagne de Coiffe, elle sépare le monde manifesté du monde invisible. Mais chez les Égyptiens, c'était un sycomore. Et il se trouve que par un étrange retour des choses, un sycomore, mais qui là n'est pas un figuier, c'est un érable, réapparaît chez Lynch. Dans Twin Peaks, à la fin de la série Twin Peaks, je spoil pour ceux qui n'ont pas vu cette série depuis 25 ans, parce que c'était quand même dans le premier Twin Peaks et non pas dans celui d'il y a un an. À la fin de Twin Peaks, Dale Cooper, voulant retrouver sa fiancée, enfin son amie Annie Blackburn, qui venait d'être enlevée par Windham Earl, traverse un cercle de 12 sycomores qui l'amène dans la Black Lodge de Lynch, mais qui amène aussi tout l'œuvre de Lynch dans un temps complètement déboîté et terrible. C'est-à-dire que c'est un passage extrêmement périlleux, dangereux.
Et c'est encore un arbre frontière, hein.
C'est un arbre frontière, absolument. Et il s'est trouvé que, alors que, il y a quelques années, quand j'écrivais un livre sur Twin Peaks, pas celui qui est donc réédité, en même temps que Sycamore Sycamore, avantageusement par les presses universitaires de France, lorsque je travaillais sur ce motif, je m'étais rendu compte que le sycomore apparaissait souvent dans le théâtre de Shakespeare. Enfin, en tout cas, trois occurrences très importantes. Roméo et Juliette, Peine d'amour perdue et Othello. Et je me posais la question de savoir quelle était sa fonction, étant donné que, surtout dans Roméo et Juliette, il semble bien que le sycomore grove renvoie aussi à l'état émotionnel de Roméo. Et c'est là où, par une note d'une édition de Roméo et Juliette, j'ai lu que les shakespeareologues, en tout cas, précisaient que le sycomore était employé par Shakespeare pour le jeu de mots homophonique qu'il faisait avec sycamore. Alors ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup plu.
Qui veut dire, hein, pour ceux qui sont pas du tout anglophones, l'amour malade.
L'amour malade, voilà, c'est une espèce de jeu de mots franglish à l'usage du public du théâtre élisabétain. Sycomore, sycamore. Et ça a été pour moi un truc très très frappant.
Comme une sorte d'image passage, d'une certaine manière, c'est ce jeu de mots shakespearien qui vous a peut-être emmené dans le monde parallèle de ce livre-là, pas comme tellement.
Ah mais complètement. C'est-à-dire que au moment où je travaillais sur ce sujet, il y a donc ça devait être 2011, je ne m'attendais pas à ce que l'année suivante je tombe moi-même amoureux d'une façon totalement maladive, et ça m'a amené dans des mondes qu'il m'a fallu plusieurs années avant de pouvoir évoquer à travers, évidemment, il s'agit pas d'écrire un livre autobiographique, il s'agit d'écrire un essai sur cette question-là et sur toutes ces résonances. Et je me suis rendu compte que c'était un vaste parcours qui m'attendait. Et les sycomores se retrouvaient aussi dans le cinéma de Jacques Rivette. Donc se retrouvaient aussi dans la poésie de Nerval, se retrouvaient aussi, dans les livres de Raymond Roussel. Et donc, du coup, ça m'a donné une sorte de trame étrange où des mots officie aussi comme des portes. Et c'est des mots ou c'est des objets. Et d'ailleurs, un peu comme dans les textes de Raymond Roussel, où les mots sont là pour leur valeur homophonique. C'est-à-dire que s'il y a des sycomores dans Impression d'Afrique, c'est étrange, parce qu'il y a aussi Roméo et Juliette. Et dans Roméo et Juliette, il y a des sycomores, mais pour signifier le sycamore. Et on sait que Raymond Roussel travaillait essentiellement sur les homophonies. Donc on se retrouve pris dans une espèce d'étrange labyrinthe, ou de jeu de loi, ou de...
Avec des mots magiques, en fait.
Avec des mots magiques, qui implique finalement des nouvelles modalités de perception du monde.
Est-ce qu'il fallait, pour commencer ce livre-là ou pour commencer cette étude, puisque vous dites finalement c'est quelque chose, une réflexion qui commence il y a 7 ans, nécessairement remonter à la Genèse et forcément vous inviter dans le Jardin d'Éden?
Ça a été ma porte d'entrée. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps aussi à travailler sur les textes gnostiques, enfin ceux qu'on a appelés gnostiques, puisque je le répète très souvent, mais je vais le répéter encore une fois, parce que de toute façon on se répète beaucoup, et dans ce livre aussi je me répète beaucoup. Bon, les gnostiques ont été appelés gnostiques par les chrétiens, donc c'est un mot qui est un mot péjoratif, mais quoi, tant pis, on l'utilise. Et c'est des textes qui ont été retrouvés en 1945 à Nag Hammadi, et c'est un énorme corpus de 44 textes, et que j'ai pas fini aujourd'hui d'explorer et de chercher toutes les clés qui peuvent apporter pour ouvrir autrement l'histoire de ce monde. Et dans ces textes-là, il y avait une genèse alternative. Et elle me parlait énormément. C'est-à-dire que si genèse il y a, l'idée c'est que la genèse n'est pas la genèse, ou en tout cas la genèse qu'on nous a donnée, l'histoire d'Adam et Ève telle qu'on nous l'a racontée, c'est des cracks. Mais c'est un peu comme quand on dit, les enfants, on leur apprend des cracks quand ils sont petits, quoi. C'est un peu comme on leur raconte l'histoire du Père Noël, et puis après ils disent merde, il y avait pas de Père Noël, c'était papa et maman. Et là, il y a un côté, on vous a raconté que qu'il y avait cet arbre, ce fruit interdit, que vous l'avez pris, que c'est votre faute, que donc si vous êtes si malheureux, c'est parce que vous avez franchi un interdit, un hubris, et donc ça a entraîné cette suite de malédictions. Et le texte de la Genèse alternative que proposent les textes gnostiques, qui sont des textes qui ont été écrits entre le 1er et le 3e siècle, c'est pas non plus un allumé d'aujourd'hui qui s'est dit tiens je vais tout réécrire. C'était des contemporains des premiers chrétiens. Eux ils proposent une toute autre histoire. Dans la leur, comme dans tous les textes gnostiques, il n'y a pas qu'un seul dieu, mais il y en a deux. Il y a le démiurge qui est en effet le seigneur de cette terre, et puis il y a la véritable divinité dans une des premières émanations, et la Sophia. Et c'est la Sophia qui crée le premier être. Le premier être est un androgyne. Cet androgyne, en fait, c'est Ève. Ève est d'abord un androgyne, Ève de la vie. En réponse à ça, le démiurge, mécontent, parce qu'il a été un peu doublé, doit créer un premier être humain. Son premier être humain à lui, c'est Adam. Mais comme il a très peur qu'Adam soit indépendant et s'émancipe, il le fait très bête. Il le fait même comme une espèce de petit pantin désarticulé, qu'il met dans une fosse. Cette fosse, il l'appelle le jardin d'Éden. Et la Sophia, effrayée, horrifiée par ça, ôte d'Ève sa part masculine, donc féminise Ève, l'envoie sur la terre. Mais le moment où elle va sur la terre pour apporter à Adam l'intelligence, pour apporter à Adam la connaissance, elle se fait intercepter par les mauvais anges du démiurge, les archontes, qui la battent, la violent. Il y a toujours des histoires comme ça dans les textes gnostiques. Hein. Je suis désolé, c'est absolument atroce. J'y suis pour rien.
Et ça dit des choses, par ailleurs.
Et ça dit des choses, oui, absolument. Et de l'autre côté, ils vont enfariner Adam en lui disant on a sorti une femme de ta côte. Elle va faire croire que c'est pas le cas, mais il écoute pas, etc., etc.
Des cracks encore et des cracks.
Et des cracks et des cracks. Donc c'est dans cette perspective-là, la malédiction amoureuse vient d'un tiers. Il s'agit pas de savoir si elle vient, mais comme toujours dans la perspective gnostique, il s'agit pas d'un péché originel qu'on porterait et qu'on transmettrait de génération en génération, mais d'une désorientation qui provient à chaque naissance. L'âme désorientée cherche son chemin. Elle est amenée par sa désorientation même à faire des mauvais choix. Ces mauvais choix, on ne la tient pas comme coupable, ou on n'estime pas que c'est une juste rétribution par rapport à un mal qu'elle porterait en elle, mais on estime que ce sont des erreurs, des sortes de mauvaises rencontres qu'elle fait à la suite de cette désorientation initiale.
Et là, le mal vient quoi ? Vient du démiurge qui a peur de l'indépendance de l'homme ?
Oui, et qui a peur de l'amour. Il a très peur de l'amour entre les êtres humains. Parce que à ce moment-là, c'est comme s'il passait au second plan. Enfin, comment dire ?
Oui, c'est très clair. Si vous vous aimez plus les uns les autres, du coup, qui m'aimera moi ?
Et voilà, oui, exactement. Alors, on peut vraiment le voir d'une toute autre perspective. C'est-à-dire, si on va chez les soufis, par exemple, c'est justement dans l'amour d'un autre être humain qu'on va trouver l'amour divin. C'est-à-dire que l'amour divin va s'épiphaniser à travers l'être aimé. Et tous les poèmes des grands poètes soufis nous racontent ça.
Est-ce qu'on peut en faire une règle générale, Pacôme Thielman, de ce livre-là que vous consacrez au sentiment de l'amour malheureux, qu'il a toujours à voir avec la peur, quelque part ?
Ah, c'est intéressant.
Puisque vous dites là, finalement, la désorientation et le mal qui vient du tiers, c'est un mal qui est peureux, éminemment peureux.
Ouais, oui. Oui,
est-ce qu'il y aurait un amour malheureux s'il n'y avait pas d'amour peureux ?
Comment on fait pour éviter la peur ?
Franchement, si vous nous le dites ce soir sur France Culture, je crois que vous...
Ce serait un scoop.
Non, mais c'est super, on commencera 2019 hyper bien.
On va chercher.
Ok, c'est... donc on esquive en tout cas pour le moment.
Ce serait mentir que de dire que j'ai déjà une solution pour contrer la peur. Mais là où c'est très pertinent ce que vous dites, c'est que bien dans Twin Peaks, si on prend Twin Peaks, il y a l'idée que les portes de l'autre monde s'ouvrent à partir de l'amour et de la peur. C'est ce qui est dit dans le dernier épisode de Twin Peaks. L'amour et la peur ouvrent les portes. Et Cooper, le héros de Lynch, l'entend par « la peur ouvre la Black Lodge, l'amour ouvre la White Lodge ». Mais c'est pas ce qui se passe. Parce que lui, à ce moment-là, on peut pas dire en tout cas qu'il ait peur immédiatement. Enfin, on ne perçoit pas la peur au moment où Cooper pénètre ses portes. Mais on perçoit l'amour. C'est-à-dire que l'amour l'amène dans la Black Lodge. Mais si on en suit votre idée, et je le trouve très intéressante, l'amour qu'il porte est un amour qui est évidemment rempli de peur. Parce qu'elle est, c'est un amour qui a déjà des précédents, qui a des fantômes. En fait, s'il y a toujours peur dans l'amour et cet amour rend malheureux, c'est qu'il y a toujours des antécédents. Et c'est qu'on peut difficilement se considérer le premier homme et femme sur Terre. Je parle même pas des antécédents qu'on a dans notre propre vie, parce qu'on en a souvent un certain nombre, mais mettons même un premier amour.
Oui, en fait, ce que vous développez beaucoup dans ce livre-là, c'est que ça n'existe pas un premier amour. Un amour vierge de tout attachement, de toute déception, de tout manque, de toute attirance n'existe pas. Qu'en fait, on a des bagages qui sont de toute façon et depuis très longtemps trop lourds.
Oui, oui, oui. Et depuis avant notre naissance même.
Et depuis avant notre naissance. pour en terminer sur cette grande introduction, pas comme tellement. Vous dites, je commence ce livre donc il y a quelques années, avant même moi de connaître ce sentiment ou cet attachement. Alors les motivations sont lesquelles? C'est à retrouver ce sentiment-là dans les œuvres que vous affectionnez, c'est à le rencontrer autour de vous. Qu'est-ce qui fait que vous commencez vos recherches à ce moment-là?
Alors là, c'était vraiment le motif de l'arbre du sycomore. Il y avait une autre raison aussi, ça c'est des raisons très personnelles, ou en tout cas très perso-professionnelles, c'est que Sycomore aussi a déjà un antécédent dans ma vie, puisque c'est le nom de la boîte de production de mon meilleur ami, collègue, complice, Thomas Berthet, à travers lesquels on fait nos films. Donc ça s'appelle Sycomore Film, sa société. Donc l'arbre du Sycomore, de toute façon, était un arbre qui me parlait.
Est-ce que vous saviez que ça vous parlait à ce point?
Pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Donc, il y a une sorte de, comme une sorte de prélude ou de préalable à l'écriture qui, et même à la vie, qui passe par la récurrence un peu obsessionnelle de certains mots ou de certains motifs.
Et un jour, ils ouvrent sur quelque chose.
Et un jour, ils prennent vraiment sens. Mais c'est aussi toute l'interrogation qu'a Shakespeare dans Roméo et Juliette, enfin qu'a Juliette, qu'y a-t-il dans un nom? C'est une phrase qui est une phrase clé. Qu'y a-t-il dans un nom? Dans Roméo et Juliette, à ce moment-là, quand elle dit ça, c'est pour dire c'est dommage qu'on s'appelle Capulet et Montaigu, parce que si on n'était ni Capulet ni Montaigu,
on ne serait pas empêchés.
Mais l'exemple qu'elle donne, c'est la rose. Une rose serait tout de même une rose, quand bien même elle ne porterait pas le nom de rose. Or, il se trouve que la première amoureuse de Roméo s'appelle Rosaline. Et donc, il y a dans l'amour de Roméo et Juliette un élément qui est indépendant de leur ascendance familiale.
Et qui les précède.
Qui les précède, qui est que Juliette n'est pas le premier amour de Roméo.
Et on en revient au mot magique de tout à l'heure, en fait.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il y a dans les noms?
Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a dans un nom? Vous allez très vite, en effet, pas comme tellement dans ce livre-là, sur le terrain vaste du théâtre de Shakespeare. Et pour y aller à notre tour, on va écouter André Markovitch.
Ce qui compte, c'est que le spectateur soit tout le temps, à chaque seconde, fasciné par quelque chose. C'est-à-dire qu'au sens strict du terme, chacun en est pour son argent. Donc, il faut garder 1500 personnes debout pendant, allez, 2h30, 3h. Mais c'est déjà un truc incroyable. Et en plus, il y en a plein qui ne voient pas le spectacle. C'est qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension dans la pièce. C'est ce que j'appelle le principe du shilling. Il faut payer. Donc, le spectateur entre. Et pendant 3 heures, il est là. Ah ! Ah ! Ah ouais, 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 ouais. Au bout de 3 heures, quand c'est la fin, tout à coup, il comprend qu'il n'a pas compris. Mais il comprend qu'il n'a pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne se sent pas rejeté. Il se sent tout prêt à repayer. Pour revenir. Et sauf que, quand il revient, à quoi il fait attention? Il ne fait plus attention à l'histoire. Parce que là, il sait Il comprend que derrière le rideau, c'est pas le Claudius qui va être tué, c'est Polonius. Il le sait, ça. Donc il va faire attention à quoi ? Il va faire attention aux mots.
Ben, si j'avais su que cette récurrence du mot magique serait aussi grande dans cet entretien, c'est donc André Markovitch qu'on entend ici. C'est un extrait de la vraiment très très belle Grande Traversée que Christine Le Cerf et Gaël Gillon avaient consacré à William Shakespeare et qui peut, je crois, encore se réécouter sur le site internet. Pas comme tellement, mais peut-être une première réaction à cette archive de Markovitch qui dit finalement il faut revenir et revenir chez Shakespeare pour que d'un seul coup la magie opère.
Alors, je suis totalement d'accord avec ce qui est dit. Je trouve ça d'une clarté limpide. Et j'aimerais ajouter, si je peux me permettre, parce que c'est parfait, ajouter, il faut non seulement revenir sur la pièce, mais il faut revenir sur l'ensemble. C'est-à-dire, alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure ça fonctionne avec l'exemple du spectateur qui a payé son shilling et qui veut revoir la pièce. Mais pour moi, les pièces de Shakespeare, elles sont pris un tout autre sens à partir du moment où j'ai commencé à les lire systématiquement, plusieurs à la suite, voire beaucoup à la suite, voire quand j'ai fini par écrire ce livre-là, donc à partir de il y a un an et demi, deux ans, de façon, on va dire,
concentrée,
organisée et déterminée, lire tout le corpus d'un coup. Parce que ce qui apparaît aussi, c'est que les motifs reviennent. Et c'est qu'un certain nombre de pièces se font écho entre elles et se font écho de façon totalement stupéfiante.
C'est un système.
C'est un... Ouais, oui. Mais c'est ce qu'on dit... Quand on dit c'est un théâtre, en fait, finalement, on dit ça. Quand on dit, par exemple, dans la vie, voilà, mais c'est un théâtre ou c'est son théâtre ou on retourne dans son petit théâtre, etc. C'est qu'on sait qu'on va avoir un certain nombre de motifs qui ne vont pas cesser de revenir. Et c'est finalement le corpus, tout vaste soit-il, c'est sûr que c'est un corpus très vaste, quand même Shakespeare, et c'est pas un théâtre faible, quoi. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de pièces, beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits, beaucoup de personnages. Ils ne vont pas cesser de tisser des liens entre eux autour d'éléments qui... en apparence sont secondaires, mais à mesure qu'on va voir les pièces à la suite, ou qu'on va lire les pièces à la suite, vont devenir de plus en plus prioritaires. Et l'un d'entre eux a beaucoup à voir avec la répétition, puisque c'est les répétitions régulières de blagues autour de Pythagore. Et ça, j'avais jamais rien lu là-dessus. Alors, il y a peut-être des auteurs qui ont travaillé sur cette question-là, et ça m'intéresserait beaucoup de les découvrir, mais quand vraiment j'ai commencé à faire cette expérience bizarre de relire et de relire Shakespeare et de les lire à la suite, où je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que tous les personnages, à un moment ou à un autre, fassent une allusion, enfin, dans une suite de pièces, pas dans tout le théâtre, mais de façon récurrente, souvent les fous, comme Fest, dans La Nuit des Rois, s'adresse à un personnage et lui font une blague, ou Rosaline dans comme il vous plaira, font une blague sur et dans une vie antérieure qu'étais tu. Alors c'est étais tu un rat dans une vie antérieure pour te comporter aussi mal avec moi, ou étais tu une poule, ou je ne sais quoi. C'est sur un mode comique, mais en fait aussi on peut se dire pour un spectateur de ces pièces. Ça renvoie au rôle que jouait l'acteur dans la pièce précédente, parce que c'est une troupe. Et une troupe, elle joue des pièces à la suite.
En gros, quel personnage as-tu interprété?
Quel personnage as-tu interprété?
Quelle vie est passée par toi?
Exactement. Et en interprétant ce personnage, quelle a été ta précédente incarnation? Et ça marche pas seulement pour Shakespeare, mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres. C'est-à-dire que c'est une chose fort connue, quoi, que d'un roman à l'autre, un écrivain reprend les mêmes motifs, retisse les mêmes motifs, etc. Dans les films, surtout quand c'est des acteurs qui reviennent, quand un acteur revient, on a toujours la lumière ou l'éclat de son rôle dans le film précédent du même auteur. Donc on retisse à chaque fois cette idée-là. Et donc, en fait, on a une espèce d'incarnation dans cette vie de la métempsychose, ou d'expérience dans cette vie de la métempsychose.
Et alors dans le théâtre de Shakespeare, dont vous écrivez que c'est un yoga, que sa lecture est quasiment un yoga, donc on est là aussi sur cette espèce d'éternel retour. Qu'est-ce que vous apprenez, on a parlé rapidement de Roméo et Juliette, sur le sentiment d'amour malheureux? Qu'est-ce que vous y trouvez pour nourrir votre réflexion pas comme tellement?
Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai commencé à le lire en parallèle des sonnets de Shakespeare. Donc ces fameux sonnets assez mystérieux que Shakespeare adresse principalement un jeune homme, mais où, à partir du sonnet 127 et jusqu'au sonnet 152, apparaît une autre figure, une femme très mystérieuse, qu'on appelle la Dark Lady, qui est une femme très brune, très mate, et avec une personnalité extrêmement définie, qui est définie par sa très forte personnalité, et dont on voit, si on lit le théâtre de Shakespeare, que les mêmes mots servent à définir des personnages de son théâtre. En particulier, dans Peine d'amour perdu, qui est une pièce, à mon avis, capitale, parce que c'est une des trois seules pièces de Shakespeare dont on ne connaisse pas un patron antécédent, c'est-à-dire que la plupart des pièces de Shakespeare sont des reprises de récits connus, ou peu connus, mais des novellas italiennes, ou évidemment des figures de la mythologie, ou etc. etc. Il y en a trois dont c'est pas le cas, c'est Peine d'amour perdu, Songe d'une été et La tempête. Elles ont forcément toutes les trois une valeur très particulière, parce qu'on ne sait pas d'où il les sort, et ce qu'on peut voir aussi, c'est à quel point, quand il travaille d'autres pièces, il les fait converger avec celle-ci. Et si on m'excuse cette longue digression, dans Roméo et Juliette, ce personnage de la première amoureuse de Roméo s'appelle Rosaline. Mais elle n'a pas de nom dans les autres versions de Roméo et Juliette. C'est uniquement dans la Roméo et Juliette de Shakespeare qu'apparaissent et le sycomore et le nom de Rosaline. Mais Rosaline apparaît dans une pièce qu'il écrit juste à côté et c'en est le personnage féminin principal, c'est Peine d'amour perdu. Et dans Peine d'amour perdu, elle est décrite avec les mots qui servent à décrire la Dark Lady. Donc là, on rentre dans une espèce de lecture, on va dire, du théâtre de Shakespeare, orientée pour moi, en tout cas, comme une enquête sur la Dark Lady. En fait, comme une enquête sur ce qu'a pu être le sycomore de Shakespeare.
C'est... Parce que cette Dark Lady, c'est la figure de la femme qu'on aime en ayant mal. C'est-à-dire que son obscurité, c'est le mal qu'elle nous fait.
Mais je dirais que le mal qu'elle nous fait lui est moins propre que les conditions à travers lesquelles on la rencontre. C'est-à-dire que c'est pas par nature,
c'est contextuel.
C'est contextuel. Et ça, ça fait partie des éléments, on va dire, que le théâtre de Shakespeare m'ont apporté, en tout cas en tant que yoga. C'est-à-dire que, à travers toutes ces différentes incarnations, progressivement, on voit à quel point le poète ou l'auteur des pièces réussit à expliquer le mal qu'elle fait au personnage masculin, non pas par une mauvaise nature, mais par la situation dans laquelle le monde l'a mise. Et en ça, on retrouve quelque chose de comparable à l'histoire de Adam et Ève dans la genèse alternative des gnostiques.
L'extérieur, le tiers.
C'est exactement. Le mal vient d'un tiers. Et ce tiers, alors, bon, chez Shakespeare, c'est évidemment le contexte historique. Et du coup, l'enquête sur la Dark Lady devient passionnante.
Alors, enfin, on va y revenir à cette Dark Lady en entendant un sonnet. Mais pour l'instant, nous, dans notre enquête sur le sentiment d'amour malheureux, pas comme tellement, on a à la fois la situation, comme on le disait à l'instant, et toutes les vies qui sont passées avant nous et qui nous font arriver bien autrement que vierge devant un amour qui ne sera jamais le premier. On en est là.
Tout
on est d'accord?
Absolument.
Très bien. Alors, je lis une traduction d'un sonnet de Shakespeare, le 128. Elle était déjà là dans le sonnet 127, la Dark Lady, et c'est dans votre traduction. Si souvent, quand toi, ma musique, tu joues sur ce clavier béni qui sonne et s'émeut sous tes doigts délicats, quand doucement tu glisses dans ces secs accords qui déconcertent mes oreilles, j'envie ces touches qui bondissent avec agilité pour embrasser le tendre creux de tes mains, alors que mes pauvres lèvres, qui auraient dû récolter cette moisson, rougissent face à toi et au courage de ce clavier. Elles changeraient d'état si tu les titillais à leur tour. Elles se transformeraient en puces dansantes sur lesquelles tes doigts marcheraient avec leur douce démarche, toi qui bénis ce clavier de bois mort plus que des lèvres vivantes. Si ces touches impertinentes doivent ainsi être choyées, donne-leur tes doigts, mais donne-moi tes lèvres à baiser.
France Culture, Par les temps qui courent, Marie Richeux et Pacôme Thielman.
Alors, Pacôme Thielman, je lisais votre traduction du sonnet 128 pour faire apparaître la femme sombre, la Dark Lady dont on parle depuis tout à l'heure. Et dans le commentaire que vous faites de ce sonnet 128 de Shakespeare, vous dites « Ce qui est important, ce n'est pas seulement qu'elle soit musicienne ou qu'on parle des doigts de son art du clavier, mais qu'elle soit ma musique. » Au début du sonnet, c'est comme ça qu'elle est évoquée.
Ouais,
pourquoi c'est important ?
Parce qu'en fait, il y a une rencontre entre la femme aimée et le style lui-même. C'est-à-dire que c'est la personne à qui on s'adresse qui détermine la façon dont on va écrire. C'est comme ça que je l'interprète. C'est comme ça que j'interprète aussi ensuite, dans toutes ces pièces de Shakespeare, l'importance de la figure des réprouvés et des laissés pour compte et on va dire des abandonnés de la société. C'est-à-dire que la Dark Lady, avec elle, elle porte aussi l'idée qu'elle est que c'est une figure de marginale, on va dire ça comme ça, c'est une figure de marginale. Et rien que dans la pièce Peine d'amour perdue, où apparaît donc cette espèce de double qui est Rosaline, la pièce Peine d'amour perdue est une sorte de transformation de la question de la l'ascèse mystique en une question d'ascèse amoureuse. Il s'agit de personnages d'une cour autour d'un prince qui décide de faire une espèce de vœu de chasteté pour se consacrer à l'étude. Il y en a un qui a pas trop envie, qui est le personnage de Byron. Byron qui dit mais non, mais en fait c'est quand même mieux quand on est amoureux, etc. On trouve aussi beaucoup beaucoup de choses. Enfin bon, il doit se plier aux volontés de son souverain. Et en face d'eux, on a un groupe de femmes qui vont les faire changer d'avis, mais qui pour autant vont leur faire une sorte d'épreuve, c'est-à-dire qu'ils vont quand même devoir rester un an sans les revoir, mais pendant cette année-là, ils vont devoir s'occuper de tous les bannis, les réprouvés de cette société, qui vont devoir aider. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de renversement qui se joue à partir de la rencontre amoureuse à l'adresse même qui est faite dans l'œuvre de Shakespeare, qui passe par la transformation de son écriture, mais aussi la transformation d'une conception du monde, ou d'un monde qui va être plus vaste, plus large. C'est ce qui a fait l'extraordinaire permanence de Shakespeare, tous les siècles qui ont suivi, c'est que il n'est pas représentatif de son époque. Il est tout aussi actuel aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que il a su embrasser le monde. C'est comme ça qu'on le représentait. C'est même comme ça qu'il a très souvent été évoqué jusqu'à Borges par l'idée que c'est peut-être le seul homme sur Terre qui était tous les hommes. Et le fait qu'il ait été tous les hommes, finalement, on peut le comprendre comme la conséquence de sa rencontre avec une femme qui était une femme qui était hors les conditions classiques de rencontre qu'il pouvait avoir dans sa société.
Et qui profondément l'a changé.
Et qui l'a changé.
Mais alors, ça m'amène à deux questions, Pacôme Thielman. L'idée que la rencontre amoureuse ouvre sur une ouverture plus vaste au monde et au monde au pluriel est plutôt pour moi une idée heureuse.
Tout à fait, mais ça passe quand même malgré tout avant par
Le dark.
Par le dark. Oui.
C'est-à-dire qu'il faut entre guillemets payer son shilling, pour reprendre l'expression de Mark Lynch, ouais, cette espèce de monstre composé de Markovitch et David Lynch. Il faut payer son dû à l'obscurité pour avoir une vision plus large, multipliée, pour être en soi tous les hommes comme Shakespeare.
Bah, c'est-à-dire que c'est aussi une question presque, on pourrait dire, de type initiatique. Et c'est ce que vous résumiez quand vous citiez au début la question de l'aube qui suit la nuit. C'est pas du tout la même chose d'être heureux avant d'avoir été malheureux et d'être heureux après avoir été malheureux. C'est vraiment pas du tout la même chose. Ça n'a pas la même qualité, ça n'a pas la même valeur, vraiment. Dire la rencontre amoureuse n'est qu'une rencontre heureuse, elle ne nous transformera pas. Elle transformera pas notre regard.
Et si on a appétit de transformation, il faut forcément avoir affaire avec quelque chose qui est au mieux inconfortable.
Voilà, on va dire ça. Hein, on va dire ça.
Si
comme
on reste
ça.
Dans les espaces tranquilles.
Oui, exactement. Si on ne conseille pas à tous les auditeurs d'aller à leur perte.
Et la deuxième question qui me venait en vous écoutant parler de ce Shakespeare qui est en lui-même tous les hommes, donc son écriture éminemment parlante, c'est tout ce que dit ce texte, votre texte, pas comme tellement. De l'amour qui naît de la fréquentation des œuvres. C'est-à-dire qu'en parallèle de l'écriture d'un essai, si on peut l'appeler comme ça, sur le sentiment de l'amour malheureux, vous écrivez aussi un essai, quasiment négatif, sur la puissance amoureuse de la fréquentation des œuvres de Shakespeare, Lynch, des textes agnostiques, on en parlera tout à l'heure, ou du cinéma de Rivette. Comme si ça allait ensemble, mais pas du tout comme un remède, mais comme une sorte de concomitance.
C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord.
C'est pas consolez-vous auprès de Shakespeare, non. Pas du tout, ni régler vos problèmes auprès de Rivette. C'est, il y a une sorte de, ça va ensemble.
Oui, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord. En fait, mais parce que il y a des œuvres qui mystérieusement répondent parfaitement à des problèmes qu'on se pose.
Dans la vie d'homme.
Hein?
Dans notre vie d'homme.
Dans notre vie, absolument. Et qui, c'est la relation, en fait, entre la vie et les œuvres. Et alors, peut-être qu'il faut être un peu malheureux dans sa vie pour être très heureux dans les œuvres qu'on découvre. Ou pas forcément. Mais en tout cas, il faut se poser des problèmes dans sa vie pour que les œuvres puissent parler.
D'ailleurs, c'est en tout quasiment... cas, peut-être qu'il faut être ouvert, puisqu'on parlait tout à l'heure de la manière dont la rencontre avec la Dark Lady ou le Dark Boy ouvre en nous plus d'espace ou à un monde plus vaste, d'un seul coup, on est aussi ouvert à faire entrer Shakespeare, à faire entrer Rivette ou Lynch ou que sais-je.
Bien sûr, c'est l'image classique du cœur brisé, mais pour que la lumière puisse rentrer. Tout à fait, c'est ça. Je suis d'accord. C'est ça.
Soyez bien malheureux avant d'aller au théâtre. Payez-vous une bonne peine d'amour.
Non, mais au moins, il y a une question à poser. Et il y a une question à poser et une question qui soit existentielle. Parce qu'en fait, sinon, on est un spectateur passif. C'est peut-être ça, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que les œuvres deviennent actives à partir du moment où on les active. C'est comme les dieux. Un dieu à qui on ne parle plus meurt. Il y a des dieux qui ont disparu parce que on a cessé de croire en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent que par notre croyance. Mais si on ne leur parle pas, bah, ils s'éteignent, c'est normal. Ils ont perdu leur fonction. Ils ont perdu leur raison d'être.
Et alors, les œuvres que vous évoquez dans ce livre-là, pas comme tellement, vous leur avez adressé quelles questions? Questions existentielles dont vous parlez.
Je leur ai demandé pourquoi on retournait toujours dans les mêmes figures et dans les mêmes labyrinthes.
Ils vous ont répondu surtout. Parce que c'est ça le fun. Moi aussi, je le fais. Moi aussi, Shakespeare, je raconte toujours les mêmes choses.
Oui, peut-être qu'ils ont répondu. Oui, on peut dire ça, mais on peut dire aussi qu'ils ont répondu. Tant qu'on n'aura pas trouvé la solution, on sera obligé d'y retourner. Mais il y a une solution. On a l'impression de toujours s'en rapprocher un tout petit peu plus. C'est une image, mais on va dire en négatif de la métempsychose. C'est une image anarchique de la métempsychose. C'est une métempsychose qui n'est pas là pour porter une délivrance, on va dire, qui soit naturelle, qui soit
vous nous le redéfinissez, la métempsychose?
Oui, pardon, j'utilise beaucoup ce mot et j'ai pas du tout
elle
donné
comme
une définition.
Ça, cadeau pour les gens qui ne le savent pas.
Bon, c'est la transmigration des âmes, c'est-à-dire que l'idée qu'une âme, dans son parcours, passe de vie en vie, de corps en corps. Et il y a plusieurs versions de cette même idée, mais on la retrouve en Inde, comme en Grèce, comme un certain nombre de
traditions. Et elle y repasse pour se rapprocher le plus possible et de foi en foi, de quoi?
Normalement, c'est la délivrance, c'est-à-dire, grosso modo, se séparer de tout ce qui nous affecte comme des passions, c'est-à-dire tous les affects tristes fondamentalement si on parle avec des langages modernes, mais c'est la délivrance de l'ego, c'est et il y a plusieurs manières de l'aborder, mais une des plus belles, qui est la Bhagavad Gita, c'est une délivrance, et donc c'est une fin de la métempsychose dans l'action. La Bhagavad Gita dit qu'on doit pouvoir, dans l'action, se délivrer de l'action elle-même, en tout cas de se délivrer des attentes qui sont portées sur cette action. Donc il y a toujours l'idée dans la Bhagavad Gita qu'on doit se battre, mais sans regard pour son fruit. Donc on se battre pas pour obtenir un résultat, mais parce que dans l'acte même de ce combat, on y trouve une forme de délivrance. On quitte l'ego, on quitte le confort et on quitte la peur. Peut-être que là, on arrive
j'allais
à l'idée.
Y venir,
on y arrive.
Et c'est un très 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 beau texte qui fait écho à ce passage-là de votre livre. Le problème dans la vie, c'est qu'on sait déjà tout ce qu'on a besoin de savoir, mais qu'on ne sait pas qu'on le sait. On le sait toujours sans le savoir. On ne cesse pas de se rendre compte qu'on sait ce qui allait nous arriver. Mais on ignore encore tout ce savoir qui est présent en nous et dont on aurait tant besoin pour ne pas se viander à nouveau. Pour ne pas, à nouveau, se cogner le nez et se briser le cœur contre la grille en fer noir de la réalité. Cette ignorance de notre propre savoir, on ne le ressent jamais aussi bien que dans le sycamore, où se répètent toutes nos histoires passées, où s'anticipent toutes nos relations futures. Et tout y est donné dès le début, dès la première phrase, dès le premier sourire. Mais on a besoin de retraverser la totalité du labyrinthe pour se rendre compte qu'on le savait dès le début. Et cela vaut évidemment pour l'écriture de ce livre. Et voici Purcell et les oiseaux, je me suis dit que c'était important qu'il y en ait deux, trois. Pas comme Tiellement, on entend ici, je viens de lire ici un extrait de votre livre « Sycamore, Sycamore » qui, moi, m'a fait penser un peu au Bhagavad Gita parce que il y a l'idée de l'éternel recommencement mais aussi de l'ignorance de son propre savoir. Et vous concluez ce chapitre en disant « Et cela vaut aussi pour l'écriture de ce livre ». Alors qu'avez-vous compris que vous saviez déjà en écrivant ce livre-là ?
Beaucoup de choses. En fait, mais je ne savais pas que je le savais, c'est ce que dit d'ailleurs ce texte-là. C'est-à-dire que il s'est trouvé que à un moment, je me suis rendu compte de la récurrence systématique d'un certain nombre de motifs qui étaient des motifs que j'avais déjà traversés avant à l'intérieur de l'écriture de ce livre qui partait sur un sujet que normalement j'avais pas encore traité. C'est-à-dire que c'est le premier livre que j'écris sur l'amour. Et j'y vais tranquillou bilou avec Shakespeare. Alors, j'ai jamais parlé avant, ou alors j'en citais comme tout le monde cite Shakespeare, une phrase ici, une phrase là, avec Oscar Wilde, avec Raymond Roussel. Tranquille, tranquille le chat, il a pas travaillé ses sujets.
Entre guillemets, je serai pas en prise avec mes vieux monstres.
C'est
quoi.
Ça, exactement.
C'est sûr, j'y vais voilà. Tout neuf, j'avance et puis je vais conquérir de nouvelles montagnes.
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, point par point, ils m'ont ramené à chaque fois à des univers que je croyais avoir traversés précédemment, mais que j'avais encore traversés de façon très très insuffisante. Et donc j'ai vu revenir Buffy, j'ai vu revenir Marcille Fissin, j'ai vu revenir Nerval, et quand j'ai vu revenir un des motifs, qui est un des motifs principaux de plusieurs de mes livres précédents, je suis désolé pour l'auditeur qui se dit, il nous parle comme si on les avait déjà lus, bah oui, désolé, bon, je vais
répondre à cette question. Contraire. Voilà. Bah, bon. Au contraire, vous nous parlez comme si on les avait pas lus en nous disant que c'est récurrent.
C'est récurrent, un film de Jacques Rivette qui est Céline et Julie vont en bateau. Et Céline et Julie vont en bateau parle précisément de ça. C'est-à-dire que si je me remets à parler en permanence de Céline et Julie vont en bateau, c'est que je me remets en permanence à parler d'un film qui parle d'une pièce qui se répète en permanence. Et cette pièce qui se répète en permanence, c'est la pièce de la domination. Dans un livre précédent, je l'avais appelé « Le monde imaginal ténébreux de tout ce qui cloche dans le monde ». Donc c'était, et si je dois hyper brièvement pitcher le film, en gros, Céline et Julie sont deux sorcières. Elles sont régulièrement envoyées dans une maison qui est située au 2 bis rue du Nadir aux Pommes. C'est une adresse imaginaire dans Paris, mais dans le film, on a l'impression que ça se passe vers Montmartre. Et dans une maison dans laquelle, en fait, se répète perpétuellement une même histoire, où une petite fille est assassinée. Elle est assassinée, on ne sait jamais si elle est assassinée par une femme ou par une autre, puisque toutes les deux sont amoureuses d'un homme qui les domine et qui en même temps les mène l'une contre l'autre, avec à chaque fois le, on va dire, le chantage de « mais je ne peux pas être avec toi parce que tu comprends, j'ai promis à la mère de ma fille que blablabla bla ». Bla bla. Et donc grosso modo c'est une histoire de manipulation, c'est une histoire de domination, et cette histoire se répète et se répète et se répète jusqu'au moment où elles disent « on s'en fout de savoir qui... » laquelle des deux a tué la petite fille, l'important c'est de sauver la petite fille. Et à partir de ce moment-là, elles disent, cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Et si je me répétais en permanence ce film, enfin si je reparlais sans cesse de ce film, c'est parce qu'en fait, fondamentalement, dans mon problématique amoureuse...
Vous n'en étiez pas encore à cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça.
Je n'en étais pas encore, parce que j'étais encore à me demander, mais c'était qui le coupable, elle ou moi? Vous voyez? En fait, c'est ça en fait que ce livre m'a appris. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'écriture de ce livre que je savais sans le savoir? C'est-à-dire que je travaillais sans cesse sur des œuvres qui me disaient l'important dans une histoire d'amour, c'est pas de savoir qui est le coupable. En gros, c'est de sauver la petite fille. Mais en gros, c'est de sauver l'innocence. C'est de sauver, c'est de sauver les meubles. C'est de sauver le monde. C'est de sauver, sauver la réalité. C'est de cesser de fonctionner dans l'idée que entre toi et moi, il y a un coupable. Je dis toi et moi en termes général, je ne m'adresse à personne à la radio.
et donc, peut-être pour en revenir à ce que vous faisiez comme référence précédemment, pas comme tellement, et donc libérer l'action de son fruit, le désir de son objet. En gros, ne pas être, oui, en effet, du côté de la désignation de qui fait quoi, mais de qu'est-ce qui se fait.
Oui, tout à fait. Ah, ça c'est... Je vous le piquerai parce que c'est vraiment bien.
Ok, pas de problème.
Oui. Pas qui fait quoi, mais qu'est-ce qui se fait? Ça marche complètement.
Qu'est-ce qui arrive, en fait? Qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'à partir du moment où, de toute façon, on considère que quand on est dans une histoire d'amour, elle n'est pas personnelle. Une histoire d'amour ne nous appartient pas. Déjà, à partir du moment où on commence une histoire d'amour, on s'appartient plus à soi-même. Et l'autre non plus. Donc, on appartient à qui? Au mieux, on arrive à appartenir à cette espèce de couple initial, originel, Adam et Ève de la vie, qui jusqu'à présent ont toujours pas reçu justice, qui continuent à être en fuite, en fugue, qui sont on the run, parce qu'ils sont poursuivis par les archontes du dieu mauvais. Et au pire, on est assaillis par les fantômes de tous les autres amoureux, qui non plus n'ont pas trouvé... On pas trouvé l'issue. On pas trouvé leur sortie du labyrinthe.
Alors, pour continuer, parce que tout à l'heure, j'étais toute rationnelle que je suis sur, je suis le scribe de notre enquête commune, pas comme tellement dans cette heure de radio. Alors, on se disait, bon, alors, l'une des solutions pour ne pas sombrer dans le malheur amoureux, se libérer de la peur, être conscient des circonstances, être conscient de nos vies intérieures, du fait qu'on arrive déjà beaucoup trop vieux d'amour devant l'amour. Mais là, vous venez de dire quelque chose d'important, c'est que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de libérateur à abandonner l'idée que c'est vraiment A et B qui s'aiment et s'y tenir trop fort, en gros de ne plus appartenir.
Oui, c'est ça la solution. Ce serait la solution si on en était capable, absolument. Mais pour ça, il faut être passé à travers ce labyrinthe un nombre incalculable de fois. Il faut avoir réussi à travers ce. En fait. C'est-à-dire que c'est la prédernière fois qui fonctionne. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire que il y a une fois où, à force d'avoir circulé interminablement à travers les mêmes couloirs, avoir revu les mêmes figures, avoir retraversé les mêmes états, c'est ce moment-là qui est le moment Sidney et Julie, le moment ça ne se passera pas comme cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça, le moment d'interruption. En fait, c'est un moment où on décide, on recommence encore tout, mais c'est pour la dernière fois. On refait le parcours, mais cette fois-ci, c'est le parcours en plus, c'est l'après-dernier parcours, et c'est celui où finalement les affects négatifs ont cessé d'agir, parce qu'ils ont, comment on pourrait dire, c'est comme on a été cogné tellement de fois au même endroit, on n'a plus mal. On ressent toujours le coup, mais il produit plus les mêmes choses, et surtout, on cesse d'en faire une affaire personnelle. Mais ça marche ailleurs que dans l'amour aussi. C'est là où il faudrait commencer Et c'est un peu tard pour ça maintenant. Le livre est déjà sorti, l'émission est bientôt terminée. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler politique. Non, il faudrait essayer de voir si on peut transférer ces affects-là en politique. Ça, en tout cas, ce serait un projet, ce serait quelque chose d'intéressant. De voir si on peut arriver à transférer la question de... Mais au bout du compte, ça ne nous appartient pas. Ce qui se joue, c'est un niveau beaucoup plus vaste, beaucoup plus global. Et il s'agit pas de savoir si c'est A ou B qui a raison, mais il s'agit de savoir qu'est-ce qui peut se passer pour que A et B s'oublient dans ce qui se passe et que ce soit l'humanité à travers eux qui s'épanouisse.
Et qui triomphe.
Et qui triomphe, absolument.
No, I banda. There is no band. Il n'est pas de orchestra. This is all a tape recording. No, I banda, and yet we hear a band. If we want to hear a clarinet, listen. Un trombone à coulisse. Un trombone con sordina. J'aime le son du trombone en sordine. J'ai le son. A muted trumpet. Il n'est pas d'orchestre. It is an illusion.
I got idea, man. You take me for a walk. Under the sycamore tree, the dark trees that blow, baby, in the dark trees that blow, and I'll see you. And you'll see me, and I'll see you in the branches that blow in the breeze. I'll see you in the tree. I'll see you in the tree. Under the sycamore tree.
Alors, on a commencé avec les Sycomores et on termine avec eux et Jimmy Scott.
Je crois que c'est un des morceaux que j'aime le plus au monde.
Ah bon, bah voilà.
Je me demande même si finalement, la raison de ce titre, c'est pas que ça pouvait me donner l'occasion de réécouter de temps en temps Under Sycamore Trees. Et surtout, ce que j'adore, en dehors évidemment de la voix sublime de Little Jimmy Scott, c'est les espèces de vibrato, de contrebasse, de Ron Carter. Je sais pas comment on appelle ça exactement. Enfin, c'est...
En tout cas, la vibration de la corde, quoi.
La vibration de la accords de la contrebasse qui fait ce... Ça, c'est un truc qui me fait trembler. Depuis que j'ai entendu la première fois, ça me donne la chair de poule et ça n'a pas cessé.
Juste avant, dans l'extrait de Mulholland Drive, bon, on va pas vous mettre au défi d'en parler en 30 secondes parce qu'on est quasiment à la fin de cet entretien, pas comme tellement, mais il était tellement question d'illusion. Mmh. Et c'est aussi une dimension importante du livre que vous avez écrit, Sycomore, Sycamore. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Bien sûr, oui, tout à fait. Oui, c'est très difficile de revenir sur Mulholland Drive et la question de l'illusion en 30 secondes, en effet. Mais si Mulholland Drive réintervient dans ce livre, ce n'est pas seulement parce que le film, évidemment, parle d'un sycamore, comme Inland Empire, comme en fait tous les films de Lynch entre Twin Peaks et Twin Peaks, enfin entre Twin Peaks saison 2 et Twin Peaks saison 3, si on accepte le Straight Story, ça n'est que des histoires de sycamore, mais aussi sur la question de comment est-ce que le monde que l'on perçoit en fait est piégé par les illusions que certaines fictions nous ont données ou nous ont léguées, et en particulier cette espèce de machine gigantesque à illusions qu'a été le cinéma classique et qui a donné, on va dire, des espèces de méthodes pour vivre qui se transforment toujours en leur contraire et qui en fait est la forme ultime de condamnation de l'Occident.
En gros, allez au cinéma, allez au théâtre, lisez des livres, mais ne vous laissez pas trop raconter des cracks.
Jamais.
Merci beaucoup, Pacôme Thielman. Sycomore, Sycamore, c'est publié au PUF et on mettra le reste des nombreuses publications sur le site internet.
Dans ma veste de soir,
au son ce soir, c'était Pierrick Charles à la réalisation, Lise Combe. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture, quand vous voulez sur franceculture.fr et surtout quand vous voulez en podcast, parce que vous pouvez vous abonner évidemment au podcast de l'émission. Un immense merci à Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier qui ne sont jamais malades d'amour car ils ne se laissent pas raconter des cracks, pas comme tellement. Excellente soirée à tous sur France Culture.
Encore une fois, les accords.